Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans et je suis actuellement animateur au GEM, au groupement d'entraide mutuelle LC38.
Et que t'est-il arrivé ?
J'ai eu un accident lié au forceps à la naissance, on a tiré sur mon crâne avec deux espèces de cuillères reliées par des élastiques et voilà.
Comment t'es-tu rendu compte de ton handicap ?
Parce que j'avais du mal à faire les choses courantes, comme par exemple attacher les lacets ou attacher un bouton, mais surtout, c'est que j'ai voulu faire une école de pâtisserie, c'est mon patron qui s'en a aperçu. Quand j'ai eu 16 ans. Avant, ça passait bien, parce que ou le handicap me gênait pas, ou je compensais mon handicap avec ce qui marche bien. Comme la mémoire, pour le dire, par exemple.
Est-ce que tu y allais à l'école normale ?
Jusqu'en CP, oui. Après, j'étais dans une école pour personnes qui ont des difficultés avec le langage, que ce soit écrit ou oral. Et là, c'était dur parce que j'étais en internat et je rentrais un week-end sur 3, voire un week-end sur 2 à la fin. Et ensuite, je suis rentré à l'école du quartier où j'ai atteint un très bon niveau de CM2. D'ailleurs, l'institut que j'ai eu en CM2, elle a fini prof spécialisée, institutrice spécialisée, après m'avoir eu moi. Et ensuite, j'ai fait l'école primaire, enfin plutôt le début du collège, dans une école où tout le monde avait 2 ans de retard, à Notre-Dame-de-Sion, pour différentes raisons. Et ensuite, j'en avais marre de l'école, je voulais travailler, donc j'ai voulu faire une école de pâtisserie à 15 ans et demi, et j'ai fait ça en alternance, et c'est là qu'on s'est aperçu que j'avais un handicap. Enfin, réellement de ce qui se passait, qu'on a fait le point, et ensuite, je suis allé dans un centre pour handicapés, en fait, à Lyon, pour handicapés moteurs à Lyon.
C'est pas un handicap moteur, tu
veux. Si. C'est le moteur qui est cassé, c'est le cerveau qui est cassé, donc c'est le moteur.
Est-ce qu'il y a eu des examens après, lorsque tu es né, qu'il y a eu ce...
Non, pas à ma connaissance. Parce que, en fait, je me développais. Normalement, on s'en rend compte quelques jours après la naissance, mais moi, je me développais quasiment normalement. Donc, les premiers symptômes ont commencé à arriver quand j'ai essayé d'apprendre à lire et écrire quand je suis allé à l'école.
D'accord.
Où on m'a classé dans tous les handicaps, sauf le handicap moteur. On m'a dit l'hyperactif, parce que j'arrivais pas à suivre en cours et j'étais un peu dissipé. On m'a dit hyperactif, après j'ai fait une crise d'épilepsie, on a dit non, c'est lié à l'épilepsie, et on n'a pas cherché plus loin jusqu'à ce que j'ai 16 ans, quoi. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a vraiment des gros problèmes et que quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Que mon patron tire la sonnette d'alarme, en fait.
Comment le patron a pu déceler ce gène ou ce...
Parce qu'il a l'habitude de former des apprentis. Il en a en moyenne 2 par an. Et il prend des pré-apprentis régulièrement, il prend des stages régulièrement. Donc il s'est aperçu que j'avais du mal à faire certaines choses spécifiques à la pâtisserie et à la chocolaterie. Donc il s'est posé des questions et en discutant avec ma mère, qui était une de ses plus grosses clientes, ils ont dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut lui faire passer des tests. Et c'est ce qu'on a fait. Et elle a fait le rapprochement avec ce qui s'est passé à ma naissance.
Auparavant, tu n'avais ressenti aucun symptôme
Si. Essentiellement visuel, donc j'ai eu des ophtalmos qui n'ont rien trouvé. Et j'ai tendance un peu à compenser le handicap par ce qui marche bien, par la mémoire par exemple. Quand j'étais enfant, je lisais de mémoire en fait. Donc je relisais tout ce que les 20 pages ou 30 pages qu'on avait lues en cours, je les relisais de mémoire, par cœur.
Oui, est-ce que tu as eu des séquelles après la naissance ?
Oui, mais ce qui était difficile... C'est comme je ne sais pas quelle est la normalité, je me rends compte de ce qui est très gênant et pas des choses, tant que je ne suis pas confronté, c'est pas trop. J'ai surtout des problèmes d'attention et quand j'étais enfant, je faisais des crises d'épilepsie durant le sommeil.
D'accord.
C'est un nom, c'est des crises d'épilepsie particulières, mais je ne sais plus le nom. Et donc on m'a tout de suite dit il est épileptique et puis on ne cherchait pas plus loin, on n'a pas cherché plus loin. Sinon, j'ai des problèmes sur les yeux. En fait, à la naissance, ils ont pris les forceps, ils ont tiré sur la tête. Au lieu de faire ce qu'il faut, mais ils ont agi dans l'urgence. D'accord. Au lieu de faire une césarienne, et donc ça a fait ça. Mais ça ne le fait pas à chaque fois. Donc ça a compressé le cerveau, donc ça a fait une lésion. Ou un manque d'oxygène, j'en sais rien. Et surtout, ça a compressé le nerf optique. Ce qui fait que j'ai un retard de vision de quelques millièmes. Et j'ai des problèmes au niveau des yeux. Et j'ai des problèmes d'attention, surtout. Et je suis très maladroit, en fait, à l'extrême.
Ah oui, d'accord.
Ça se voit pas trop. Et ça m'a un peu déformé la colonne, en fait.
Ah oui, d'accord.
Mais après l'adolescence, j'ai une maladie de Schwellermann qui n'a pas été détectée et qui me fait mal. C'est-à-dire que c'est une maladie qui arrive en fin de croissance et ça fait une syphose, pour faire simple, sur le haut des vertèbres dorsales. Et normalement, on met un corset et ça va, bon, on s'en est pas aperçu. Avant que j'ai 35, 36, 37 ans. Avant que j'ai mon accident, en fait.
D'accord.
À 37 ans.
Et maintenant, que fais-tu de tes journées? Ou as-tu des projets?
Eh ben, mes journées, je les passe à faire de la rééducation, de la kinésithérapie, de l'orthophonie, de l'orthopsie et OGEM, essentiellement. Et de temps en temps, mais régulièrement à témoigner. Et je fais partie de l'association sportive où j'essaie de m'impliquer le plus possible dedans.
Ton handicap est-il apparent?
En partie, oui. Au premier coup d'œil, on ne le voit pas. Sauf si on s'intéresse un peu au problème de dos. Là, les gens le voient tout de suite, mais sinon, ils ne se voient pas. Et dès qu'on me fait lire ou qu'on me fait travailler, bah, ils se voient tout de suite, puisque... Enfin, ils se voient tout de suite, oui et non. Non, ils ne se voient pas beaucoup, à part si on me regarde dans les yeux, on voit que j'ai les yeux qui partent un peu de travers, mais...
Mais c'est invisible quand même.
Oui, pas tout, mais il y a une partie qui est invisible, effectivement.
Parce que moi, en tout cas, avant de te connaître, je ne vois pas que tu es handicapé.
Mais moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont... Dans le tram, par exemple, quand ils me voient debout, ils me cèdent leur place. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Que je me tiens un peu voûté, on voit que j'ai des problèmes de dos, mais sinon, avant d'avoir l'accident, ça se voyait pas du tout.
Du coup, on parle de handicap invisible, c'est plutôt un avantage pour toi ou un inconvénient que ça se voit pas?
Et, je le vis depuis toujours, le seul inconvénient que j'ai, c'est qu'on a du mal à détecter précisément ce qui se passe, puisque ça se voit pas, et que les médecins sont pas toujours... Enfin, ils mettent ça sur le dos de ce qui se voit en premier, dès qu'ils font les tests.
Oui, c'est...
Il s'arrête à ce qu'il voit en premier et pas au reste.
As-tu une vie professionnelle?
J'étais technicien de labo avant de venir au GEM. J'étais jusqu'au niveau licence. Et ensuite, j'ai travaillé à l'INRA. Juste avant de venir au GEM, je me suis cassé une vertèbre. J'ai eu un accident de bateau, je me suis cassé une vertèbre et ça amplifie mon handicap lié aux médicaments et à la douleur. Okay. J'ai dû mettre du travail parce que les seuls endroits pour produire du travail, il fallait conduire. Et je ne peux pas conduire avec mon handicap.
Et... Est-ce que ça te manque
Le travail, non. Parce que je viens au GEM et ça remplace. Puisque je fais l'animateur et avec Françoise, on essaie de se comporter comme si... Moi, j'essaie de faire comme si c'était un travail. Et voilà. Et ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est de gagner ma vie correctement et de me battre tout le temps pour faire les papiers, pour essayer de gagner un peu de sous, pour essayer de vivre correctement.
Actuellement, si ce n'est pas indiscret... Est-ce que tu vis seul ou tu vis-tu chez encore chez tes parents?
Actuellement, je vis seul et j'ai ma mère qui vient me faire le ménage parce qu'à cause de mon dos, je ne peux plus faire le ménage, le grand ménage. Disons, nettoyer la table, faire le petit ménage, ça va, faire le grand ménage, je ne peux plus.
D'accord. Alors, actuellement, ce qui te fait le plus souffrir, c'est ton dos?
Mais c'est même la seule chose qui me fait souffrir.
Est-ce qu'actuellement, suite à un accident, tu as quand même des revenus, puisque tu travailles, tu dis que tu travailles?
Eh bien non, je ne travaille pas, parce que je suis bénévole au GEM, et c'est tout ce que j'ai comme activité. Je touche le RSA, et c'est tout. Ah, et un peu d'APL, et c'est tout.
Ça sera toujours comme ça, quoi.
Non, après, normalement, je devrais avoir droit à la hache, mais pour l'instant, je ne l'ai plus, parce que j'ai fait un héritage, et j'ai acheté ma maison avec, mais ils partent il y a 2 ans, et il y a 2 ans, j'avais les sous sur mon compte, et ça m'a rapporté un peu. Mais j'ai tout dépensé pour acheter l'appartement et le refaire. Et le retaper. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je vis du RSA et pas grand chose d'autre. Et un peu d'APL et c'est tout. Et mes parents qui m'aident beaucoup, financièrement et autres.
Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la prise en charge de tes difficultés?
La prise en charge, j'ai rien de spécial à en dire. Si ce n'est qu'il faudrait qu'on nous aide financièrement, soit en nous trouvant du travail qu'on puisse faire, soit en nous disant il peut faire ça comme travail et il le fait, ou soit en nous dédommageant de quelque chose d'équivalent, qui nous permette de vivre. Et sans compter sur les parents ou sur un tiers personne pour nous aider à tout payer ce qu'on a à payer.
Et du coup, ça te pèse d'être dépendant quelque part de tes parents ou c'est quelque chose qui te pèse ou pas?
Financièrement, non, parce que je ne fais pas attention, mais oui, un peu. Parce que de temps en temps, je suis obligé de compter sur eux pour faire certaines tâches ménagères, par exemple. Comme le ménage, ou surtout, ce qui me gêne, c'est de faire le linge. Parce que je ne peux pas faire le linge comme je veux, parce que j'ai pas les moyens d'acheter une machine à laver pour l'instant. Donc je le fais chez mes parents.
Et au niveau des loisirs, pour t'occuper, as-tu besoin d'aide, ou soit d'une aide personnelle ou d'une aide financière?
Ben, financière, j'ai trouvé un club de sport qui est de sport adapté, où on paye pas très cher, on paye 100 euros l'année pour avoir un sport. Et après, c'est 20 euros par sport, je crois. Donc, oui, c'est pas plus. Très cher, en plus, pour les autres activités. Donc, c'est pas très cher. Donc là, ça me permet de faire des loisirs et de rencontrer des gens et de pouvoir... voilà. Et sinon, bah, pour les loisirs, j'ai le GM.
Et je voulais te demander, par exemple, quand tu veux aller au cinéma, est-ce que tu reçois de l'aide pour aller au cinéma?
Non, j'ai aucune aide. Je paye plein tarif, souvent.
As-tu des amis pour sortir dehors ou...
Oui, j'ai rencontré des amis, bah, notamment avec ceux du sport adapté et ceux du GEM. De temps en temps, je fais des sorties avec le GEM, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de temps en temps d'en faire.
Est-ce que ton handicap a freiné tes relations sociales?
Le handicap, proprement dit, non. Mais en fait, le fait que je fasse des études loin de chez moi et que je doive travailler tous les week-ends parce que c'est difficile, eh ben oui, ça m'a un peu coupé des relations avec les autres. Et là, depuis que je suis au sport, ben, je me suis fait des amis et au GEM aussi.
D'accord.
Sinon, non, ça ne m'a pas plus coupé que ça, le handicap.
D'accord.
Disons, indirectement, oui, mais directement, non.
D'accord.
Est-ce que tu as pu être aidé, tu as pu prendre contact avec, justement, avec le CRLC?
Ah oui, oui. J'ai été à l'ESAT du CRLC avant l'accident. Donc le CRLC, c'est le centre ressources pour les essais cérébraux. Moi, j'étais essentiellement à l'ESAT. Donc ils ont un atelier où on fait essentiellement du travail du bois. Et pendant ça, ils nous évaluent. Il y a une personne ou plusieurs qui nous évaluent et ensuite ils nous envoient sur des postes en entreprise. Sauf que moi, j'avais carrément trouvé du travail en entreprise. L'avantage, c'est que l'entreprise, elle nous paye pas grand-chose. Et que elle paye un peu à l'ESAT et c'est l'ESAT qui continue à nous payer, donc pas très cher. Et elle peut nous tester pendant ce temps-là et voir comment adapter les postes s'il y a besoin. Sauf qu'elle voulait quelqu'un à plein temps et ben, je peux pas le faire à plein temps, je peux le faire qu'à mi-temps thérapeutique. Parce que la médecine du travail de l'ESAT a dit mi-temps thérapeutique, malheureusement.
Quels sont tes projets pour l'avenir?
Ben, pour l'instant, c'est de me battre pour gagner ma vie comme il faut, c'est-à-dire avoir des sous des assurances. Et puis, c'est me battre aussi parce que pour reconnaître qu'il y a une erreur médicale au départ, qui pour l'instant n'est pas vraiment reconnue. Parce que le médecin qui a accouché est aussi. Les deux ils sont experts l'un l'autre. L'expert est aussi un médecin accoucheur qui s'expertise l'un l'autre. C'est-à-dire que j'ai été expertisé par un médecin qui est chef de service à Lyon, et chef de service de Lyon expertise suivante et vice-versa. Donc forcément, quand c'est pas flagrant, quand l'erreur n'est pas flagrante et difficile à voir, et ben on dit qu'il n'y a pas d'erreur.
Ouais. Donc, entre guillemets, ils ne veulent pas prendre leur responsabilité.
Voilà. J'ai 38 ans, mais on a porté plainte quand j'avais 16 ans, et du coup, le dossier est toujours ouvert, donc il faut voir si on peut encore... Normalement, on a 30 ans, mais comme c'est déjà ouvert, on ne sait pas.
Ça, c'est les projets...
Pour l'instant, c'est les projets immédiats et de m'investir un peu plus dans le GEM encore.
Aurais-tu un message passé par rapport à tout ton vécu?
Par rapport à mon vécu, pas spécialement. Si ce n'est qu'il faudrait que les médecins soient mieux formés pour remplir les papiers, pour remplir toutes les demandes, les certificats médicaux et autres, parce que ça, ils sont mauvais. Et que aussi l'État arrête de nous embêter dès qu'on gagne 3 francs 6 sous. Dès qu'on a un petit rentré de pas grand-chose. Parce qu'on hérite tout, parce qu'on a placé un peu d'argent, ben, qui nous laisse pouvoir vivre. Voilà.
Mais dans tout ce qui est les messages par rapport à la prise en charge du handicap, je pense par exemple, est-ce que tu as l'impression que tu as eu suffisamment d'informations sur ce que tu pouvais...
Ben, essentiellement dans les aides financières et dans la complexité des papiers qui sont de la paperasserie qu'on nous demande en fait. Ouais, essentiellement là. Essayez de ne pas demander 36 000 fois les mêmes papiers tout le temps, alors qu'on les a déjà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie de dire?
Oui, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a un handicap à la naissance que c'est pas le même que les autres qu'ils ont eu, qu'on n'a pas les mêmes symptômes que ce que les autres ont eu plus tard, que l'accident qu'ils ont eu plus tard. Parce que pendant des années, on m'a dit non, vous n'avez pas une lésion acquise, donc on ne peut pas vous... Au CRLC, par exemple, On m'a dit, quand je me suis présenté à 16 ans, on m'a dit non, vous n'avez pas une lésion acquise, alors on ne peut pas vous prendre. Oui. Vous avez un problème à l'essence, donc allez voir ailleurs. Et ailleurs, on me dit non, nous on traite que les IMC par exemple. Et ben j'en suis pas un, je suis un lésé cérébral et on me dit allez voir les lésés cérébraux ou allez voir ailleurs. Et il n'y a que dans les organismes où, pour eux, je peux leur rapporter des sous sans leur en coûter, où ils ont accepté de me prendre.
Est-ce que tu as un message à faire passer ?
Ben, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à se battre. Et quand on pense pour y arriver, ben, souvent, on finit par y arriver. Pas toujours, mais très souvent. C'est parce que les autres nous empêchent d'y arriver que nous, on ne peut pas y arriver. Et il faudrait juste que les pouvoirs publics arrêtent de donner des sous à tout le monde dès qu'ils ont un petit bobo, mais qu'ils en donnent ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre. Pour que ceux qui ne peuvent pas travailler puissent vivre. Voilà.